Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Et oui, on le rappelle, disponible à tous les jours sur notre page YouTube. Allez vous abonner, la page YouTube Boulevard 102.1. Bon, Anto, après avoir voulu avoir de l'attention avec le show de Bad Bunny à la mi-temps, Donald Trump cherchait comment faire parler de lui. Donc hier, il s'est promené à l'extérieur, il a pris une grande marche et il a dit « Ah! » Le pont Gordie Howe. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé avec mon ami Mark du Canada. Je vais faire une menace sur le pont Gordie Howe. On est pas mal rendu là. Hein? Il y a besoin d'attention, notre Donald.
Écoute, j'ai essayé d'imaginer, en lisant cette publication sur Truth, s'il y avait fallu que Joe Biden écrive une affaire de même.
Épouvantable. On le traite de sénile.
Il était impeaché pour sénilité. Là.
C'était fini. On réclamait sa démission. On réclamait des nouvelles élections. On aurait sûrement parlé d'élections truquées encore.
Ouais.
Ça aurait été le bordel total.
Parce que c'était assez confus comme publication. Là. On est habitué. C'est ça l'affaire aussi. C'est qu'on finit par s'habituer. Donc, en gros, si j'ai bien compris... On veut pas de ce pont-là. Le Canada traite mal les États-Unis depuis des décennies. Il exige aussi des négociations immédiates. Sur quoi, ça, j'ai aucune idée.
On sait pas.
On sait pas. Il critique l'absence de matériaux américains et lance plusieurs griefs au Canada aussi concernant la Chine qui va nous voler notre hockey.
Ben oui, on n'aura plus de hockey.
On aura plus
profiter de hockey. Des Jeux olympiques,
parce
mes amis.
Parce que c'est bientôt fini.
En 2030, il n'y aura pas d'équipe féminine de hockey, pas d'équipe masculine de hockey au Canada. La Chine va nous l'avoir volé.
Oh my God. Donc, bref, tout ça pour dire que Donald Trump est visiblement très, très irrité par plusieurs actions de Mark Carney. Il y a eu le discours à Davos, évidemment, qu'il n'a pas pris dans le sens du poil. Cet accord avec la Chine qui, sur le coup, en passant, M. Trump avait dit « c'est bien correct, j'ai pas de problème avec ça ». Mais après le discours à Davos, il a changé d'idée sur l'accord avec la Chine. Donc, la forme est très confuse, mais le contenu, c'est la même chose que d'habitude, finalement. C'est en droite ligne avec ce qu'on connaît déjà de M. Trump. Donc, premièrement, on s'en prend au secteur automobile, encore une fois, là, parce que le secteur automobile dans cette région, c'est un secteur qui est ultra intégré avec les États-Unis, des échanges commerciaux importants. Ça passe, les automobiles, là, ça passe la frontière plusieurs fois avant d'être terminé. Et on se rappellera que le secrétaire Lutnick nous l'avait dit, les États-Unis veulent détruire le secteur automobile canadien.
Mm-hmm.
Lutnick nous a dit « faites votre deuil, c'est bientôt terminé, on rapatrie tout ça chez nous ». Donc, ce deuxième lien entre Windsor et Détroit, ben, on n'en veut pas finalement parce qu'on veut détruire le secteur automobile.
C'est un lien plus rapide que le premier aussi, ce que je comprends.
C'est plus rapide. L'autre pont aussi, c'est un élément important, c'est que ben, y a de la pression de l'autre côté de la frontière parce que c'est une famille puissante qui possède ce pont-là. C'est un pont à péage, donc c'est payant. Donc évidemment, quand tu rajoutes de la compétition, il va y avoir du lobbying qui va se faire pour éviter ce deuxième lien-là. Puis c'est notamment la raison pour laquelle le Canada paie la facture en passant.
Ouais.
Parce que ça ne passerait pas beaucoup nécessairement de l'autre côté de la frontière. Mais le deuxième élément, qui est la même chose que d'habitude puis qui est très cohérent avec le reste, c'est la méthode de, là, je mets entre guillemets, négociation de M. Trump qui consiste à maintenir un climat d'instabilité, d'imprévisibilité pour nous tenir toujours sur le bout de notre chaise. Le problème avec ça, c'est qu'on s'habitue. Imaginez si M. Trump avait fait cette publication-là il y a un an. Là, on aurait tout arrêté. Là. On aurait tout arrêté de vivre.
Oui.
On aurait fait des émissions spéciales. On aurait capoté. Là, tout le monde s'est trimé. Là, on est rendu juste à se dire, bon, une autre affaire, premièrement. Et souvent, ces publications sur les médias sociaux donnent jamais finalement lieu à des actions concrètes ou une communication officielle entre les deux pays. Là, dans ce cas-ci, il y a eu communication officielle. M. Carney a expliqué des choses. A Carney expliqué des choses
non,
à Donald Trump.
Écoute, Donald, on a pris un peu d'acier des États-Unis. Il y a eu des travailleurs américains qui ont travaillé sur
on
le
paye.
Pont. On paye au complet. T'es gagnant là-dedans. Je le sais que le Canada te vole depuis qu'il existe, mais...
Oh là là là, t'ambitionnes.
Mais
sûr qu'il n'y a pas dit ça.
Tu que Trump est idiot puis qu'il s'en vient sénile puis qu'il comprend absolument rien ou c'est qu'il fait exprès de pas comprendre.
C'est peut-être les deux en même temps, dans le sens que je pense qu'il y a des publications intempestives et qu'il n'y a pas de conséquences à dire n'importe quoi. Ça ne change rien pour lui. Puis l'objectif, c'est de nous faire peur. Et ça fonctionne de moins en moins. C'est quand même irritant, là, ce qui se passe, je ne veux pas banaliser, parce que s'il fallait qu'il retire l'autorisation, ça prend une autorisation présidentielle pour avoir un pont comme ça qui traverse la frontière entre les deux pays, une autorisation qu'on a reçue là, il y a déjà plusieurs années, parce qu'il faut savoir que ce pont-là, ça fait 25 ans qu'on en parle.
Ouais, donc, puis c'est, là-dedans, là. C'est sous le régime de Stephen Harper qu'on a lancé justement les travaux, qu'on a lancé ce projet-là. Donc, juste vous rappeler que Justin Trudeau était à la tête du Canada pendant 10 ans après Stephen Harper.
Absolument. Et M. Trump pourrait quand même décider d'effectivement bloquer l'autorisation. Mm-hmm. C'est quelque chose qu'il peut faire. Est-ce que c'est recommandable et utile pour lui à long terme? La réponse est non. Parce qu'évidemment, c'est des échanges commerciaux. Et le Michigan, qui est un État-clé, rappelons-le, souhaite avoir ce pont-là. D'ailleurs, mm-hmm. la gouverneure du Michigan a évidemment fait une publication disant que ce serait déplorable là, que le pont ne soit pas terminé ou utilisé comme tel. Mais comment est-ce qu'on doit réagir face à des sorties de Donald Trump comme ça? Ben, honnêtement, je dois saluer la réaction, plutôt la non-réaction du gouvernement canadien, c'est-à-dire on essaie de mettre un délai entre les réactions officielles. On dit on va voir, on attend. Et c'est la chose à faire parce que M. Trump nous bombarde de toute façon.
Ah, exactement.
Et ça fait aussi partie de sa stratégie parce que honnêtement, il se voit lui-même comme un excellent négociateur. D'ailleurs, il a écrit un livre là-dessus qui s'appelle « Art of the Deal ». Mais en fait, c'est pas un bon négociateur. La raison pour laquelle cette stratégie d'intimidation puis de toujours brasser la cage fonctionne, c'est que les États-Unis ont les reins plus solides que nous. Parce que ça lui coûte, en fait, de l'argent de faire
ben
ça.
Oui.
Tu crées de l'instabilité, il y a des conséquences importantes
aux États-Unis. Juste avoir la piètre création d'emplois la première année du deuxième mandat de Donald Trump, c'est la pire performance aux États-Unis depuis des décennies. L'inflation qui est encore à 2,7% là-bas aux États-Unis, c'est plus élevé qu'au Canada et que dans tous les pays du G7. Alors, ça coûte vraiment cher les comportements impulsifs de Donald Trump à l'Américain moyen. Là.
Exactement. Et là, le pari, c'est est-ce qu'à long terme, ça le sert ou ça le dessert? Mm-hmm. Évidemment, on pourrait en débattre, mais à court terme, ça coûte de l'argent, là, évidemment. Mais je pense que son pari, c'est de dire, ben nous, de toute façon, on a de l'argent en banque, on est capable de dépenser un peu pour atteindre mon objectif qui est de tout redéfinir les relations commerciales et même les territoires. Et ça revient un peu à ce que Donald Trump souhaite faire. Il veut être le président le plus marquant de l'histoire, quitte à, évidemment, casser quelques œufs sur le chemin. Mais j'ai trouvé que la réaction du Canada était, ma foi, bien correcte. Quand M. Trump a dit qu'il voulait négocier immédiatement, il faut aussi, en conclusion, se rappeler qu'il ne met aucun climat pour que des accords commerciaux durables et gagnant-gagnant soient signés. Donc, il faut arrêter d'avoir cette attente-là. Et là, j'enlève un peu de pression sur les épaules à Mark Carney. Je sais que les oppositions aiment moins ça parce qu'ils disent qu'il y avait monté beaucoup les attentes en campagne et qu'il n'a rien livré. Mais ce n'est pas possible de livrer des attentes prévisibles, durables dans le temps, qui soient gagnant-gagnant avec un homme comme ça.
Bien, je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, j'ai dit il y a de cela quelques semaines dans Marceau le matin que l'entente commerciale Canada-États-Unis-Mexique nous protégeait pour à peu près 90% de nos produits. Puis pour le 10%, même ça inclut des grandes industries comme le bois d'œuvre, l'aluminium, l'acier. Bien, c'est plate, mais il va falloir faire avec. Parce que notre économie va se transformer parce que on ne peut pas négocier avec cette personne-là. On va être trop perdant. Donc,
c'est pas gagnant-gagnant, là, c'est ça. M. Trump. C'est moi gagnant. Et toi, perdant.
En plein ça.
C'est pas comme ça qu'on fait des négociations. Donc, la chose à faire, c'est de prendre des grandes respirations, d'essayer de pallier les effets négatifs au pays et continuer de faire les actions de diversification de nos échanges commerciaux. Ça se fait pas en 2 minutes. Donc, sans vouloir dire que M. Carney a fait tout correctement, honnêtement, il n'y a pas d'autre option.
Non. Je pense qu'il prend les bonnes décisions à présent. Jonathan, qui nous mentionne là, justement par texto, il dit hey, « c'est plate quand il fait des truths comme ça. Il lance de la boîte, il se rétracte jamais. » Mais il le fait, dans le fond, pour sa base.
Probablement, mais en même temps, ça va pas si bien même du côté de sa base. Premièrement, puis je termine là-dessus sur M. Trump, mais le mouvement MAGA est très déchiré en ce moment par les dossiers Epstein.
Oui.
Honnêtement, c'est quelque chose. Et le mouvement MAGA est aussi déchiré par les interventions de M. Trump sur la scène internationale parce que c'est un mouvement qui est beaucoup plus axé sur l'intérieur, America First, et des fois, les velléités de M. Trump sur la scène internationale viennent en contradiction. Donc, ça va pas si bien que ça. Du coup, c'est pas l'unité la plus totale. En ce moment, on va dire ça. Je dis pas là, qu'il y a une révolte, là, il y en a pas. Mais ça va pas si bien que ça. Ensuite, les taux d'approbation ne sont pas très bons en ce moment. Et les élections de mi-mandat, pour te donner un petit peu d'espoir, s'en viennent évidemment l'automne prochain. Généralement, des taux d'approbation plus bas sont annonciateurs de mauvais résultats aux élections de mi-mandat. Donc, on pourrait avoir un espoir que, au moins, les chambres, soit le Sénat, la Chambre des représentants, soient pas 100% sous contrôle du Parti républicain. Et ça vient faire des contrebalanciers de pouvoir qui peuvent au moins limiter l'action de M. Trump. Et il peut être un peu moins impulsif, peut-être.
Oui, et qui pourrait permettre aux démocrates d'enfin s'organiser. Antonine, dis-moi donc, on s'en vient au Canada et on a notre scandale cyclique au Canada. On écoute Christine Normandin du Bloc québécois.
Monsieur le Président, le fameux logiciel QRAM qui prive des retraités de leur pension de vieillesse, bien là, on le paye pas mal cher par-dessus le marché. On est rendu à presque 5 milliards en dépassement de coûts. Pour vous donner une idée, c'est à peu près 10 fois le montant du scandale cyclique pour un logiciel qui fonctionne mal. À ce prix-là, quand il y a des ratés qui empêchent les aînés de recevoir leur pension puis de profiter de leur retraite, me semble que le gouvernement, il pourrait faire quelque chose.
J'en reviens à ce que tu m'as déjà dit. J'ai tout de suite pensé à ça aujourd'hui. Au Québec, tu sais, la politique au Québec et les journalistes sur le beat, c'est beaucoup plus virulent, voire agressant envers les politiciens. Puis c'est d'ailleurs ce qui a déstabilisé Pablo Rodriguez, l'ex-chef du Parti libéral du Québec, qui n'a pas duré longtemps. S'il y en a qui l'ont oublié, là, ça se peut, OK? Du côté du fédéral, c'est plus smooth le beat. Bien là, on est rendu à 5 milliards pour un projet informatique. Nous autres, on a fait une commission d'enquête à 1,1 milliard. On a déchiré la chemise. Karl Malenfant va essayer de se démener comme un diable dans l'eau bénite demain en conférence de presse. Pour le fédéral, ouf!
On est relax.
5 milliards, c'est rien, Jeff, voyons.
C'est ça.
On 85 000 aînés qui ne reçoivent pas leur pension.
Oui, oui.
Pas grave.
C'est pas, là, c'est pas grave. Pas grave. Ils vont le recevoir à un moment donné.
Puis à un moment donné, puis en passant, ça nous fait penser à quel autre fiasco sur la scène fédérale? Système de paix.
Ben oui, Phoenix.
Combien de temps ça a pris? Il y a des gens qui sont pas, qui entendent encore de
ouais,
se faire payer.
Oui, c'est ça. Puis là, Phoenix, ça a commencé dans l'actualité il y a à peu près 8 ans, je te dirais.
Puis c'est pas réglé. Là.
Non, c'est pas réglé. Mais non, encore.
Je veux pas décourager le monde qui attend leur pension. Là,
début d'automne, il y avait quelqu'un qui disait faut que je vende ma maison parce que j'ai pas eu.
Non, mais c'est-tu assez
salaire?
Terrible?
Non,
moi,
ça a pas de
je
sens.
Suis désolée, mais on doit se scandaliser. Moi, je suis plus du genre à essayer de vous calmer généralement, là, puis être apaisante là, dans l'espace public. Là, je m'excuse, mais scandalisons-nous. Là.
Ouais.
10 fois plus de dépassement de coûts que ça clique. C'est de l'argent qu'on jette par les fenêtres. Ça arrive constamment dans les projets informatiques sur la scène
ben
fédérale.
Oui.
Ça arrive aussi dans les provinces. Les journalistes font leur job. Là. Ils en écrivent des articles là-dessus. Là. Mais cette espèce de culture de non-responsabilité puis de « c'est pas grave » parce que,
ouais.
Je sais pas, c'est plus loin de nous un peu le fédéral ou la manière aussi dont la période de questions est faite fait en sorte qu'on passe d'une question à l'autre. Ils posent à peu près 30 questions en période de questions qui dure 30 secondes. On n'a jamais de réponse. Mais ça n'a aucun sens.
Mais qu'est-ce qui se passe? Là, on parle de dépassement de coûts 5 milliards de dollars. On a eu le projet SACLIC. Ça arrête plus côté numérique. Là. Je veux dire, je sais pas comment ça se passe à travers le monde, mais il me semble que là, ça dégénère
ouais.
au Canada.
Ça se passe mal à travers le monde. Là, pour, je me suis beaucoup intéressée aux projets informatiques au cours des dernières années parce que je suis passionnée par les manières dont on jette l'argent par les fenêtres de toutes sortes de manières dans nos gouvernements et les projets informatiques, ça en fait partie. Okay? Ce qui arrive, c'est que souvent les projets, premièrement, dans les ministères, il n'y a pas de compétences. Donc là, dès qu'on veut même définir le besoin, quand vient le temps de formuler, là, nous, on a besoin d'un système qui fait ça. Là. Même là, on fait déjà des erreurs. Okay? Après ça, on va monter un appel d'offres. Dans l'appel d'offres, on met des paramètres qui ne nous protègent pas contre toutes sortes de choses ou alors qui découragent même des entreprises de bider sur les
ouais.
appels d'offres parce qu'ils se disent « c'est n'importe quoi cet appel d'offres-là, je ne vais pas bider dessus ». Donc, on n'est pas bon pour faire les appels d'offres. Ensuite, on ne fait pas de gestion de projet. Donc, la gestion de projet, là, c'est une expertise qu'on n'a pas énormément. On ne gère pas bien les projets, on gère mal les risques. Et on a des systèmes de surveillance qui font en sorte que les compétences qu'on avait d'un ministère pour définir nos besoins est la même après pour surveiller le projet. Des projets trop gros, des projets trop longs, qui finissent inévitablement avec des retards, avec des dépassements de coûts. Ça va être vraiment important de surveiller le rapport Galant parce que moi, je vous invite à aller au-delà du spectacle et de la gestion de crise. Parce que, OK, on va taper ses doigts de Geneviève Guilbeault, elle n'a pas dit la bonne affaire en commission. C'est important, c'est bien correct, OK? Mais au-delà de la gestion de crise, qu'est-ce qui a mené à la crise? Il va y avoir un paquet de recommandations dans cette commission-là qu'il faut mettre en application. et qui vont nous aider à prévenir les prochains fiascos.
À mieux gérer les projets informatiques.
Et on ne pourra pas le prendre à la pièce. Puis, je vais vous dire, je fais confiance à la commission, mais j'ai quand même un petit stress parce que même les gens de la commission ne sont pas non plus des experts. Je suis sûre qu'ils en ont consulté.
Exactement.
Mais le manque de compétences est partout. Puis, tu sais, même pendant la commission, des fois, la manière dont on posait les questions aux témoins, je me disais, hey, je suis pas sûre qu'ils comprennent exactement comment ça fonctionne un projet numérique. Et c'est normal. On est tous un peu noob, on est tous un peu nuls là-dedans. Donc, pour moi, ça va passer notamment par la mise en place de peut-être un genre de VG de l'informatique qui va aider les ministères à définir le besoin puis à concevoir les appels d'offres notamment, OK? Mais il va falloir évidemment que les gens sur le comité ne bident pas sur les projets parce que sinon tu définis le besoin pour le gagner. Et évidemment, il va falloir que ce soit éthique, mais il va falloir qu'on aille chercher une expertise à quelque part et elle se trouve dans le privé.
Bien, c'est ça que j'allais dire. On pogne-tu le kingpin du privé? Puis on dit, hey toi, parce que là on s'entend que les dépassements de coûts qu'on vit de 500 millions de plus, 600 millions de plus, on pogne le kingpin, on dit, toi là, je te donne 10 millions par année puis c'est toi qui surveilles ça.
Ça serait moins que les dépassements de
coûts. Ça serait moins
que
les dépassements de coûts. Là, je sais qu'il y a des gens qui scandaliseraient, disent « Ah, pas d'allure, il faudrait donner 10 millions. »
Pendant qu'on coupe des sorties culturelles dans les écoles.
Oui, mais si je donne 10 millions pour en sauver 500, je suis gagnant de 490.
Ben, c'est notamment ce que le Parti libéral a proposé l'automne dernier. Michel Cetlacoué, qui est la porte-parole en matière de numérique et cybersécurité, a dit qu'il faut qu'on embauche des top guns.
Ben oui.
Mais réalistement, tu ne peux pas avoir des top guns dans chacun des ministères. Donc, l'autre élément... Puis là, je suis au Québec, mais tout ça s'appliquerait au fédéral, on s'entend. Il faudrait que le ministère de la cybersécurité et du numérique prenne vraiment du leadership. Pendant le fiasco de sa clique, là, ils s'en sont lavé les mains. Ah, c'est pas nous, c'est les ministères qui gèrent ça, puis les sociétés d'État qui gèrent ça.
Exactement. Éric Kerr a même dit, vous pourriez me faire des éloges.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il avait dit ça.
Vous devriez me faire des éloges.
Quel bon souvenir.
Des éloges pour 500 millions de dépassements. Let's
Donc,
go, mon Éric.
Je m'attends à ce que dans les recommandations du rapport Galland, on donne un rôle plus central au ministère et qu'il y ait des changements dans la gouvernance, dans la gestion des projets, incluant dans les sociétés d'État.
Oui.
Parce que c'est notre argent pareil. Ben, ça change.
Exactement.
C'est l'argent public.
Lâchez-moi l'autonomie de la société d'État quand ça vient de mes poches à moi aussi. Là.
Donc, bref, tout ça pour dire que nos yeux doivent se tourner aussi vers le fédéral. C'est beaucoup d'argent et c'est de l'argent qu'on pourrait mettre dans des choses bien plus intelligentes.
Ben oui. Je termine cet excellent caucus qui est du lundi au jeudi de 12h05 environ à 12h30, disponible sur notre page YouTube. Allez vous abonner. Si on parle beaucoup de Donald Trump, au Québec, on parle beaucoup de cet homme.
Voulez-vous changer les règles et permettre le droit acquis pour ces travailleurs temporaires qui devront respecter les conditions dont j'ai parlé? Mais là, il faut cesser de tergiverser et il faut que Christine appuie l'idée d'un droit acquis et qu'elle convainque Jean-François Roberge de le faire. Alors Jean-François s'est rallié à Christine. J'espère, j'ose croire qu'ils sont ouverts à s'asseoir et à se rallier à la position que je défends.
Je suis très heureux. Bernard Drainville nous a écoutés hier. On a dit, Bernard, on parle juste du troisième lien.
Parle
d'immigration!
Hey! Il nous écoute. Donc, il y a plusieurs messages subliminaux dans ça. Le premier, c'est tergiverser. Okay? En dehors du dossier du PEC et de l'immigration, ce que Bernard Drainville essaie de faire, c'est de définir Christine Fréchette comme quelqu'un d'hésitant.
Okay? Oui, c'est vrai.
Là, sur le dossier de l'immigration, elle n'est pas hésitante.
Non, elle n'est pas hésitante pantoute.
Elle est très claire.
Elle a dit, il n'y en a pas de clause grand-père, c'est le nouveau programme, on s'en va là tout le monde, c'est fini.
On peut être en désaccord avec sa position.
Ben oui.
Mais on ne peut pas dire qu'elle est hésitante.
Non, là, elle a pris une décision. Bon. Je suis très d'accord avec toi.
Deuxièmement, M. Drainville, ce qu'il propose, c'est la même chose que Jean-François Roberge. Je m'excuse.
Ben oui.
Là, c'est parce qu'en ce moment, il y a un train là, qui roule, là, puis là, tout le monde embarque dedans. On demande une clause grand-père. Okay? C'est de bon goût et de bon ton, présentement, de demander une clause grand-père à on ne sait pas qui, à des gens qui pensaient peut-être appliquer sur un programme. Ce que le gouvernement dit, c'est regardez, les secteurs prioritaires, les gens qui parlent français, qui sont déjà ici, on va vous prioriser dans le nouveau programme, le PSTQ. Donc, la question se pose pour M. Drainville. Soit que il sait très bien que c'est à peu près le même nombre de personnes qui va passer avec la solution de M. Roberge ou sa clause grand-père qu'on ne sait pas qui va avoir. Ou alors, lui, ce qu'il propose, c'est qu'on la donne plus largement. Et alors, est-ce qu'on augmente les seuils d'immigration? Moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on ait une discussion là-dessus. Mais c'est un parti politique, la CAQ, et M. Drainville faisait partie de ce gouvernement-là, qui nous dit qu'il faut contrôler les seuils d'immigration et baisser aussi l'immigration temporaire depuis des années. Là, on nous dit, ouais, mais là, on va faire une exception. Parfait! Ayons là la discussion. Alors, de combien on augmente les seuils en 2026? De combien on augmente les seuils en 2027? Dites-nous la vérité. Il ne sait pas c'est quoi le nombre de personnes. C'est ça le problème avec clause grand-père dont on parle. Moi, je pense que ça passe par allonger les permis de travail, prioriser ces personnes-là dans le programme d'immigration permanente restant, c'est-à-dire le PSTQ. Et évidemment, quand on dit de prioriser certains secteurs, bien sûr, là, tu sais, je veux dire, à un moment donné...
Bien sûr qu'on privilégie, exemple, la santé.
Bien oui, santé, éducation, les éducatrices en garderie, certains secteurs dans des régions où le besoin est plus criant. Mais ça, ça passe par des gens qui déposent des dossiers dans le PSTQ. Mm-hmm. Et ceux qui ne sont pas encore prêts à le faire parce qu'ils pensaient qu'il y avait le temps d'avoir des permis de travail qui allaient durer plus longtemps puis éventuellement aller dans le PEC, bien, il faut leur laisser la chance. C'est niaiseux de faire partir des familles de gens qui parlent français.
Bien, c'est ça.
C'est niaiseux, il faut les garder. Mais ça, c'est le fédéral. Fait qu'il faut faire aussi une entente avec le fédéral. Là, ça, c'est sur le fond des choses, mais sur la forme, M. Drainville, ce qu'il essaie de faire, c'est de gagner une journée. Quand tu es en retard dans une course, tu essaies de gagner la journée, puis tu dis « je m'arrangerai plus tard avec les détails », tu comprends? Et d'essayer de mettre sa compatriote mal à l'aise avec le dossier du PEC, compte tenu qu'en ce moment, tout le monde crie « clause grand-père, clause grand-père ».
Oui, puis un sondage est sorti, là, plus de 60% des Québécois disent « ceux qui sont... » Déjà ici, devrait rester.
Exact.
Je fais après partie ça, de ce 60%-là.
Après ça, la solution...
Après ça, choisis le programme que tu veux, fais-le comme tu veux. Mais moi, je pense que les gens qui sont ici, qui travaillent déjà depuis 2 ans, qui maîtrisent la langue française, n'ont pas d'affaires à retourner dans leur pays.
On est d'accord.
Peu importe l'emploi.
C'est juste sur la manière
là.
De faire en sorte qu'ils restent qu'il y a un débat, puis le débat est en train d'être gagné par ceux qui crient « clause grand-père », mais bref, ouais. Moi, je n'y crois pas à cette clause de grand-père comme telle. Mais M. Drainville, à force de vouloir brasser la cage, il tire un peu dans la chaloupe aussi
oui.
de la CAQ. Il attaque le ministre actuel de l'immigration. Il contribue aussi à le décrédibiliser. C'est très dur en ce moment. Puis Jean-François mm-hmm. Robert, je ne suis pas en train de dire qu'il faut pleurer sur son sort. Je suis juste
non.
en train de dire qu'après, quand quelqu'un va gagner la course, là, le niveau de popularité de tes ministres va quand même avoir un impact. Donc, il risque aussi de maganer Mme Fréchette, qu'elle gagne ou pas. En l'ayant défini de manière tellement négative. Et il l'interpelle directement. Hein. Il
ouais.
l'attaque très, très directement.
Oui, bien ça, je pense que ça va avoir, tu sais, avec le sondage d'en fin de semaine, et je termine là-dessus, avec le sondage d'en fin de semaine où c'était 28 sièges pour Christine Fréchette, c'est les chefs de la CAQ, 0 pour Bernard Drainville. Les militants voient comment Bernard Drainville agit. Tu sais, je pense pas qu'on a une course à l'heure actuelle. On a juste quelqu'un qui se débat comme
le
un
doute,
diable
là,
dans l'eau bénite. Là.
Le doute, là, c'est que je connais pas assez bien le membership de la CAQ pour pouvoir te dire avec certitude est-ce qu'ils vont y aller d'un choix stratégique pour gagner
ouais.
la prochaine élection ou est-ce qu'ils vont être réceptifs au message de Bernard Drainville qui dit il faut qu'on se retrouve autour de notre ADN adéquiste. Sauf qu'à partir du moment où François Bonnardel a appuyé Christine
Fréchette,
c'est venu un peu brouiller les cartes des messages de M. Drainville.
Oui, Bonnardel a dit ben moi, c'est pas les paroles que je prends, c'est les gestes.
Donc, ça a fait mal, hein,
ça a fait très mal à Bernard Drainville. Antonine Iaccarini, toujours un bonheur. Demain, tu es absente. Ça va être Victor Henriquez qui va te remplacer, comme à l'habitude.
Excellent. Victor, et on se retrouve
oh,
jeudi.
Oui, on s'en parle jeudi avec plaisir. Dans un instant, à Boulevard 102.1, à l'émission On en jase, on va s'entretenir de la situation de Cuba avec Luc Renaud, professeur associé au département d'études urbaines et touristiques de l'Université du Québec à Montréal. Et Rémi Villemur va être présent immédiatement après pour sa chronique. On va notamment parler du gouvernement du Québec qui maintient des millions de dollars en subvention à Evenco Live Nation pendant que les petits festivals en région comme Tadoussac et la Gaspésie perdent jusqu'à 100 000 $. Restez à l'écoute, vous êtes à Boulevard 102 à l'émission On en jase.